RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous depuis 9h jusqu'à midi, et vous avez les podcasts à votre disposition via l'appli RMC et sinon sur rmc.fr, et puis vous avez les réseaux sociaux aussi, sur Twitter, les vidéos qui sont mises en instantané quasiment par notre community manager Alexandra Bischoff. Aujourd'hui, Étienne Lébig, éducateur, Johnny Blanc, fromager, Barbara Lefebvre, enseignante en reconversion. Guilhem Carayon sera avec nous tout à l'heure à midi moins 25 dans le Face au GG. C'est le président des Jeunes Républicains. Les Jeunes Républicains qui ont un sacré défi à relever quand même depuis la défaite de Valérie Pécresse. Il y a quand même une déroute aussi aux élections législatives. Il faut trouver un nouveau patron pour le parti. Alors est-ce que ce sera un duel Éric Ciotti-Aurélien Pradier? Quelle ligne aussi pour les Républicains? Eh bien, écoutez, les réponses de Guilhem Carayon tout à l'heure avec nous à midi moins 20. En attendant, on y va pour le GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
Nous sommes au début du mois d'août, nous sommes en 2022. Il y a 40 ans, on dépénalisait l'homosexualité en France. Être homosexuel et avoir des relations homosexuelles était un crime, enfin plutôt un délit. Ça a été dépénalisé. Madame Borne est allée marquer cette date anniversaire dans un centre LGBT à Orléans. Elle a annoncé qu'elle débloquait des fonds, 3 millions d'euros, pour soutenir les associations LGBT. Et elle a annoncé la création d'un poste d'ambassadeur.
Le combat pour l'égalité, c'est aussi le porter au-delà de nos frontières. Ces dernières années, les droits LGBT+ ont été remis en cause, y compris sur le sol européen. Ça n'est pas acceptable. Aussi, conformément à l'engagement du président de la République, je vous annonce qu'un ambassadeur aux droits LGBT+ sera nommé d'ici la fin de l'année.
Alors, cet ambassadeur aux droits LGBT+ va coordonner l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la protection contre les discriminations et la promotion des droits, et portera la voix de la France. Alors certes, c'est un vrai combat. Mais est-ce qu'on a besoin d'un ambassadeur des droits LGBT+? On a une équipe, non, avec Johnny et avec Barbara. Il est seul contre le reste du monde. Les amis, c'est Étienne Lébig. Mon cher Étienne, c'est à toi pour le oui. On écoute tes arguments.
C'est parti. Bon, écoute, je vais pas dire que c'était, à mon avis, la chose la plus urgente du monde à faire. Il s'est trouvé que Madame Borne a présenté ça parce que elle allait visiter un lieu, puis c'est un anniversaire. Donc je pense que on a encore pas mal de choses à gagner sur cette question-là, sur la question des LGBT. Si l'homosexualité est beaucoup plus acceptée qu'elle ne l'était, finalement sur un temps assez rapide, hein, considérablement, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à gagner, et notamment dans le reste de l'Europe, puisqu'on est européen, mais aussi sur le fait que finalement cette homosexualité au moment de l'adolescence en particulier ne devrait pas poser les problèmes qu'elle pose aujourd'hui. Je trouve qu'il y a encore énormément de combats à mener par les gamins pour arriver à se faire reconnaître, se faire accepter. C'est toujours ça semble être comme une révolution encore. Et je signale qu'il y a encore des familles qui se positionnent de façon très dure par rapport à l'homosexualité de leurs enfants et qui carrément les virent et les renient encore aujourd'hui, et on les retrouve au refuge ou ailleurs. Et c'est donc, il y a encore des choses à gagner.
Donc c'est bien
surtout pour que la mentalité, pour que la mentalité générale devienne, que ce soit tout à fait normal, comme ça l'est je sais pas, en Californie ou dans certains lieux des États-Unis. C'est-à-dire, ça ne pose aucun problème à personne. Mmh. Voilà.
Barbara et Johnny. Barbara.
Bon, l'objectif, la mission de cet ambassadeur LGBT+, on parlait tout à l'heure d'Aircasage. On ne sait pas d'ailleurs qui va échoir cette noble fonction. Il y a aussi les ambassadeurs des pôles, donc maintenant on aura l'ambassadeur LGBT+. C'est défendre la dépénalisation universelle de l'homosexualité et de la transidentité. Bon, c'est-à-dire effectivement lutter, et c'est une noble lutte, contre, on va dire, l'homophobie d'État. Parce qu'effectivement, c'est ça qui compte, c'est qu'il existe aujourd'hui dans le monde des États dans lesquels l'homosexualité est un délit, voire un délit qui vous expose à la peine de mort. Mais quand vous regardez la tendance depuis les années 60, la tendance lourde, c'est la tendance à la dépénalisation de l'homosexualité partout dans le monde. Regardez une carte, vous avez sur le journal Le Monde notamment, oui, une carte qui vous montre cette évolution. Le Monde, dans les années 60, vous avez énormément de pays, hémisphère nord, hémisphère sud, où l'homosexualité était pénalement répréhensible. Aujourd'hui, on va dire, on n'a plus que, on va dire, 70 États où l'homosexualité est illégale et où parfois on risque la peine de mort. Où se situent ces États, essentiellement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Donc, j'espère que l'ambassadeur ou l'ambassadrice LGBT+, machin, ira donc se déplacer, puisque c'est un ambassadeur, hein, dans certains pays, notamment des pays amis, des pays alliés. Je pense par exemple au Sénégal. Sénégal où on fera une visite officielle, où on risque 1 à 5 ans de prison pour si on est homosexuel. J'en renvoie d'ailleurs nos auditeurs à un livre absolument magnifique de Mohamed Mbougarsar, celui qui a eu le prix Nobel, le prix Goncourt. Il avait écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle De purs hommes et qui raconte justement comment, avec les réseaux sociaux, etc., l'homophobie au Sénégal pouvait conduire à la mort de ces homosexuels. C'est un magnifique roman. Et d'ailleurs, Mohamed Mbougarsar a été extrêmement rejeté au moment de son prix Goncourt par son pays d'origine du fait de ce roman-là. Donc, visite de cet ambassadeur au Sénégal, je pose la question. Est-ce que, au moment de la Coupe du Monde au Qatar, on va envoyer de la police française venir aider la police qatarie, parce que comme nos policiers s'ennuient dans les commissariats, on va en envoyer quelques-uns pour aider la police qatarie pendant la Coupe du Monde. Est-ce que nos policiers vont devoir vilipender...
En disant ça, tu sais que tu as la réponse
à
cette question.
Voilà, j'ai la réponse.
L'ambassadeur, c'est plus... Voilà. Symbolique.
Non, l'ambassadeur, c'est pas symbolique. T'as entendu ce qu'a dit Madame Borne? Oui. Je crois savoir où il va aller. Il va aller en Hongrie. Parce que c'est vrai qu'en Hongrie, les homosexuels pourrissent dans les prisons, comme c'est bien connu.
Donc,
mais c'est surtout parce qu'il n'y a rien à craindre en Pologne, il n'y a rien à craindre en Hongrie de venir leur faire la leçon sur les LGBT+. Surtout sur la question de la loi en Hongrie, c'était une loi sur la question des mineurs, c'est-à-dire de ne pas permettre la propagande militante LGBT+ dans les écoles à destination des mineurs. C'était ça la loi en Hongrie. Contre laquelle tout le monde s'est élevé. Donc moi je dis simplement, cette question-là est une question, on le voit dans le discours de Madame Borne, elle a d'abord cité l'Europe.
Hein, oui,
donc c'est uniquement pour les Hongrois. Par contre, je pense que tous les autres, hein, tous nos pays alliés, les MBS et compagnie, les Qataris à qui on déroule le tapis rouge, eux, on n'ira rien leur dire. Alors que là-bas, tu peux être lapidé, tu peux être tué en place publique parce que t'es homosexuel. Mais là, je pense que là, on n'en entendra pas parler de l'ambassadeur LGBT+. Donc encore une fois, c'est une grosse hypocrisie. C'est une hypocrisie et en plus, c'est même contraire au vrai combat LGBT. Parce que ici aussi, les Alice Coffin et compagnie, les LGBT+, qui nous expliquent que le génie lesbien et compagnie, mais qu'ils aillent militer dans ces pays-là, c'est là qu'il faut aller travailler la dépénalisation. En France, aujourd'hui, il y a des problèmes, d'accord, mais c'est des problèmes qui restent extrêmement mineurs.
Etienne.
Mais il y a des, sur tous les sujets.
C'est l'argent public, surtout.
Sur tous les sujets, tu trouves automatiquement. J'ai vu que Kirikou, le dessin animé Kirikou, était interdit aux États-Unis parce qu'on y voyait les femmes qui ont les seins nus dans le dessin animé. Je veux dire, partout. Tu vois bien que dans le monde entier, il y a comme ça des systèmes de censure qui se mettent en place. Il y a des lieux où il fait pas bon être homosexuel. Il y a des lieux où il fait pas bon être blanc, des lieux où il fait pas bon être noir. En Inde, on fait travailler les enfants à 6 ans et on les marie à 7 ans. Enfin, je veux dire, effectivement, il y a des combats à mener partout. Moi, je pense très très modestement que il faut commencer par faire avancer les mentalités autour de nous, puis effectivement dans l'Europe et puis que ça va et qu'ensuite ça va gagner. C'est pas parce que la loi, moi je pense que le problème est pas là, c'est pas parce que la loi autorise que par exemple c'est facile d'être en couple gay, que ce soit à la campagne profonde ou en banlieue parfois, c'est pas facile automatiquement. Et donc je pense que je pense que il y a des tas de choses qui vont pas partout dans le monde.
On parle d'un ambassadeur là, ambassadeur pour aller dans la Creuse.
Mais c'est pas la Creuse, c'est le fait d'avoir un rôle essentiel à mener de plus en plus autour de nous sur cette question-là. Mais évidemment.
Le problème de loi. Alors dans certains pays,
mais tout à fait.
Mais chez nous, pas de problème de loi.
Mais non.
Il y a toute loi que tu veux. Je veux dire, il y a combien de lois existent contre le racisme? Aujourd'hui, est-ce que le racisme a disparu? Non. Tu changes pas les mentalités par une loi. C'est une question de mentalité. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est quand même cette espèce de façon, tout de suite, son premier mot, ça a été dire porter ce message hors de nos frontières. Là encore, nous, Français, on va se poser en donneur de leçons et on va aller vouloir appliquer quelque chose hors de notre
territoire. C'est pas donner une leçon, c'est porter des valeurs de tolérance. Ça veut pas dire faire la leçon,
Étienne.
Alors,
occupons-nous de ce qui se passe chez nous avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gamins, je vais dire, et des gamines homosexuelles en France qui vivent des situations très compliquées, qui ont des blocs de l'argent pour construire des centres, effectivement, pour les aider et les accueillir. Très bien. Qu'on commence à dire, on va nommer un ambassadeur qui va aller à Tataouine, à Trifouillé-les-Oies, pour voir ce qui s'y passe. Moi, je suis désolé, j'en ai marre qu'on arrête pas de créer des trucs comme ça, qui vont encore nous coûter de l'argent pour strictement rien, parce que cet ambassadeur, forcément, il faudra qu'il soit payé. Il y a un moment, ça me fatigue.
Bah, c'est-à-dire, dans les conditions d'adhésion, par exemple, à la, d'adhésion à la communauté européenne, la question du fait d'accepter que l'homosexualité c'est quelque chose qui est important. Donc par exemple on peut par cette façon là faire évoluer
l'inscrire dans les chartes
on peut tout à fait refuser
des droits de l'égalité des droits
on pourrait refuser de cet ambassadeur peut faire pression pour sur cette question là et sur d'autres de la liberté d'expression dans les pays et tout ça. On fait parfois, on dit vous ne pouvez pas, on va pas aller s'associer avec. En ce moment je vois que par exemple les Finlandais veulent refuser les touristes russes parce qu'ils disent voilà, les Russes tuent des Européens, ils tuent des frères européens et nous on les accepte avec leur pognon parce que c'est des Russes, ils vont venir comme touristes en Finlande. La Finlande qui va être suivie par d'autres pays côtiers, enfin qui ont une frontière commune avec la Russie, refuse l'arrivée des Russes qui sont actuellement le pays agresseur. Voilà une position qui est une position, je veux dire à la fois dogmatique mais qui est une position qui met des limites et qui fait pression.
Tu peux le dire.
Mais moi je trouve que voilà, c'est comme ça qu'on doit le faire.
Mais pourquoi discriminatoire? Pourquoi
c'est discriminatoire de dire parce que t'es un touriste russe, on va t'interdire l'entrée du territoire.
Et pourquoi on accepterait? Mais excuse-moi, non, mais je trouverais normal qu'on dise
Finlande est souveraine.
Oui,
si elle veut interdire à un certain nombre de touristes au nom de représailles politiques, elle peut le faire.
Revenons à notre sujet. Il n'y a pas de pays dans l'Union européenne qui pénalise l'homosexualité.
Non.
Voilà. Donc, Madame Borne, je ne sais pas ce qu'elle a à nous dire qu'en Europe, rien du tout, d'accord? Donc, si son ambassadeur, elle le nomme, moi, je veux voir le courage politique. Je veux le voir à l'œuvre, le courage politique. Or, il n'y en a pas du courage politique. Quand vous avez, ce qui compte, c'est le business, ce qui compte, c'est les intérêts financiers qu'on a avec tel ou tel pays, et là, on est prêt à s'asseoir sur tout. Quand j'entends...
Mais c'est l'image que tu renvoies d'un pays aussi.
L'image que tu renvoies d'un pays.
Non, mais au-delà de dire, il faut que notre ambassadeur LGBT aille en Arabie Saoudite et lève le point avec un drapeau arc-en-ciel, je comprends ce que tu veux dire, Barbara.
Mais c'est là qu'il y aurait le courage politique.
En même temps, côté des frontières, qu'on voit que la France nomme un ambassadeur LGBT, si tu veux, on se dit bah tiens, c'est des pays qui s'ouvrent, comme ce qui est arrivé à San Francisco des États-Unis, de San Francisco ou d'autres pays, si tu veux, a eu écho ensuite en France. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça peut marcher.
Je peux rejoindre un petit peu ce que dit Johnny. En réalité, il y a la question de ce qu'on appellera les normes culturelles. Eh bien, écoutez ce que dit la FIFA concernant le Qatar. La FIFA demande aux supporters, je cite, de respecter les normes culturelles du Qatar. Et donc, les normes culturelles du Qatar veulent que deux femmes ou deux hommes homosexuels n'ont pas le droit de réserver un hôtel ensemble, n'ont pas le droit de se tenir la main dans un stade ou dans la rue, n'ont pas même le droit de venir agiter leur drapeau, au Qatar, on respecte les normes culturelles du Qatar. Je peux savoir pourquoi nous, en France, on doit supporter la norme culturelle des frères musulmans et du burkini sur nos plages? Non, parce qu'à ce moment-là, qui respectent aussi nos normes culturelles à nous.
Tu trouves franchement qu'on accepte le burkini? T'en as vu beaucoup des burkinis?
Ah oui, j'en ai vu, ouais. Cet été, j'en ai vu bien. J'étais pas, en l'occurrence, ma randonnée avec l'âne s'est annulée. Et je peux te dire que j'en ai vu dans le golfe d'Antibes, oui, à la plage, et pas qu'une. J'en ai vu beaucoup. Et j'ai même été obligée de me traîner dans un parc aquatique, dans la même région. Et il y en avait des burkinis. Je peux te dire, il n'y en avait pas qu'un non plus. Ça se trimbalait par dizaines. Et j'en ai parlé avec des amis qui vivent sur place, qui m'ont dit, il y a 10 ans, dans ce parc aquatique, il n'y avait personne qui se trimbalait en burkini. Et là, cette année, il y en avait. D'ailleurs, si tu voudras, tout à l'heure, je te montrerai des photos.
Mais justement.
Donc, oui, la norme culturelle, là, par hasard, il faut la supporter.
C'est comme ça que marche la démocratie, si tu veux. C'est à la fois en disant pour certains. Non, mais. Burkini, mais tu comprends ce que je veux dire. Ça marche aussi en disant on autorise et on débat le burkini, et puis à côté de ça on te dit on a un ambassadeur pour les droits LGBT, le service public
qui lui n'ira rien demander au Qatari.
Le service public met une émission qui cartonne à la télé qui s'appelle Drag Race ou Drag Queen France avec l'élection de la meilleure drag queen.
Et allez les clichés, si les LGBT ça leur plaît.
L'émission a cartonné, elle va avoir des franchises. partout dans le monde. Donc si tu veux, t'as l'État.
Bien sûr.
À la fois les burkinis sur les plages et puis en même temps,
bien
ceux
sûr.
Qui sont là il se faut, disent mais c'est la pour France, ça. C'est aussi le pays.
C'est pour ça que
où y a, où y a ce, cette
Barbara,
émission.
Barbara, c'est pour ça qu'il faut toujours penser que. Il y a le niveau du gouvernement, surtout tout ce qui concerne les positions religieuses qui sont à la limite quand l'État et la religion sont mêlés, et les positions religieuses sont telles qu'elles sont décrétées par respect pour la religion. Mais il n'empêche que dans la population, les mentalités évoluent et un jour feront tomber ça, ces trucs-là. Et ça s'est vu partout, c'est-à-dire c'est jamais les États, c'est pas les États en soi d'un seul coup qui décident de dire allez, ça va être super, on va accorder la liberté aux gays. Non, même ici ça s'est pas fait comme ça. Le fait que l'homosexualité s'affiche, qu'à un moment il y a des manifs, qu'à un moment il y a un nombre considérable de gens et que l'opinion publique change parce que les influences, c'est ce que tu disais, nous, chez nous ça a été très fort, l'influence de San Francisco et l'influence de tout ce que ça trimbalait comme idéologie, c'est ça qui a fait varier le Parti Socialiste, c'est ça qui a fait varier Mitterrand au moment de la dépénalisation, parce que en fait c'était pas possible de continuer de vivre dans un pays qui se disait démocratique. Mais donc c'est l'opinion publique qu'il faut toucher, c'est pas les présidents.
Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est faut-il nommer un ambassadeur LGBT+.
Mais justement, on fera évoluer les mentalités.
Non, parce
tu crois
que
qu'au Qatar, il n'y a pas d'homosexuels ? Tu crois qu'au Qatar, les hôtels, ils ferment pas les yeux sur les homosexuels ? Tu crois qu'au Qatar, en réalité, il y a la loi telle qu'elle est dictée, et puis il y aura tout ce qui se passera en coulisses, comme on trouve de l'alcool, comme on trouve tout ce qu'on veut, et il y aura des homosexuels, et personne n'ira en prison. Mais non, mais parce que tu comprends pas le fond du truc.
Excuse-moi, je suis tellement idiote.
Tu ne penses qu'au niveau de l'État.
Mais oui, bien sûr.
J'ai un État. Je dis les États-Unis interdisent.
J'ai un problème. J'ai un gros problème. C'est que moi, on me donne un sujet.
Ça, je m'en étais aperçu.
On me donne un sujet, je traite le sujet. Oh. On me demande est-ce que l'ambassadeur pour défendre les droits LGBT c'est vraiment utile. Je te dis, ça n'a aucune utilité,
non,
parce qu'il viendra brasser l'air dans des pays où il n'y a pas de problème pour les homosexuels.
Je te
dis que l'ambassadeur LGBT, sa première mission, ce sera de venir faire la leçon aux Hongrois.
Tu l'as déjà
dit,
tout
ça. Il n'y a pas de problème en Hongrie.
Il est une délégation française en Arabie Saoudite ou au Qatar. Voilà, ça,
je vous fiche mon billet que non. Tu vois Emmanuel Macron embarqué dans sa visite officielle au Sénégal, au Nigeria, en Arabie Saoudite, en Égypte, au Bangladesh. Tu le vois embarquer l'ambassadeur LGBT+. Non, mais faut arrêter de nous prendre pour des billes. Cet ambassadeur, il va être payé avec l'argent du contribuable, d'accord ? Pour venir dire n'importe quoi, faire n'importe quoi sur des sujets mineurs qui ne sont pas des sujets véritablement importants pour les homosexuels qui, effectivement, meurent dans les prisons dans certains pays.
Bien sûr, mais tu dis des sujets mineurs.
Et que, d'ailleurs, ici, nos propres militants, ils n'en parlent même pas. Relance sur les coffins et compagnie. Ils ne parlent jamais des pays, comme par hasard, islamiques, où ces problèmes-là se posent.
Tu dis sujets mineurs, mais regarde les tabous qu'il y a encore dans une société ouverte comme la nôtre, la France. Mais il reste encore des bastions, des tabous, notamment dans certains quartiers, dans certaines banlieues,
campagne, même à la campagne.
Vis en couple. Vous fleurissez en même temps les voiles et les burkinis, comme
bien entendu. Peut-être que ça pourra aider. Dans un instant, au 32-16, on aura Eder qui est avec nous dans le Val-de-Marne. Pour lui, ambassadeur LGBT, ça ne sert à rien. Romain, lui, est plutôt favorable. Il nous appelle du 14e arrondissement parisien. On va regarder où en est la consultation. Madame Borne a créé, là, au début de l'été, un ambassadeur LGBT. Est-ce que ça peut être utile ou pas? Voyons ce que vous en dites sur les réseaux sociaux. C'est un non à 87%. C'est plutôt la team Barbara et Johnny qui l'emporte. À tout de suite avec les grandes gueules. Oui.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On a un débat vif comme tous nos débats. On échange dans les GG avec Barbara Lefebvre, Étienne Hébig et Johnny Blanc autour de cette décision qui a été prise par la Première Ministre, la nomination d'un ambassadeur aux droits LGBT qui pourra porter la voix de la protection contre les discriminations, la promotion des droits et portera la voix de la France. Il sera relié directement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Eder veut en parler avec nous. Bonjour Eder.
Bonjour à tous, bonjour Eugénie.
Bonjour, est-ce que vous pensez que ça peut être utile ou pas alors?
Non, je pense que c'est un poste fictif, un emploi fictif à mon avis. Le gouvernement veut surfer sur une hype de la reconnaissance des personnes LGBT, elle veut les utiliser à des fins politiques à un moment donné, comme ils l'ont fait pour la discrimination contre les femmes ou contre les personnes africaines ou maghrébines ou asiatiques. Donc inutile, et puis c'est un peu dangereux parce que c'est dire qu'on va mettre une priorité pour le combat contre le racisme des personnes, contre les personnes LGBT.
Pourquoi vous dites que c'est dangereux?
Parce que on va prioriser les LGBT contre les autres discriminations. Pourquoi il n'y a pas d'ambassadeur contre les discriminations des femmes à l'emploi? Dans les postes les plus importants, il n'y a pas d'ambassadeur. Un ambassadeur aussi pour les combats contre la discrimination des hommes africains, des asiatiques, des maghrébins. Il n'y a pas. Ensuite, juste par rapport à ce qui a été dit sur le plateau, je pense qu'il va aller en Arabie Saoudite. Je pense. C'est tout simplement par rapport. En fait, il y a le nouveau projet de Ben Salman. Dans la ville de Jeddah, qui se trouve à quelques kilomètres de la Mecque, où c'est une ville qui va devenir une ville de fête,
très touristique,
il y a déjà des soirées, voilà. Et donc, à mon avis, c'est une image un peu comme une jour où était un jour avec les islamistes, un jour contre les islamistes. Et à mon avis, il ira sur ce côté, pour ce côté-là, pour promouvoir la ville de Jeddah, etc.
J'attends le spot gay à Jeddah. Je suis pas sûr.
Ça va devenir Tel Aviv.
Oui, bah, donc, pour attraper Tel Aviv, il y a du boulot déjà.
Non, mais je pense qu'il va y aller justement pour la ville de Jeddah. Après, est-ce qu'il ira? Je ne sais pas. Mais personnellement, je dirais qu'il ira pour ça. Mais voilà, c'est pour ça que pour moi, je dis aujourd'hui en France, c'est un poste inutile. C'est pas ce genre de poste qui vont avancer.
Paradoxalement, même si on regarde le résultat de notre consultation là, ça a pas l'air très 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 démagogique parce que les gens ne sont pas pour. Donc vous dites ils s'appuient sur.
Ils sont pas contre le fait qu'on aujourd'hui défende les droits. Je pense que c'est
bien
vraiment
sûr, c'est pas
quelque
ça
chose
le
qui est passé, tu vois, dans les mœurs. Mais je pense que ça rejoint plus ce que dit Barbara. Si on se dit un ambassadeur, c'est avec quel pouvoir, avec quel budget, pour quoi faire. Est-ce qu'il aura vraiment un rôle qui sera.
Non, on n'en sait rien.
Si tu veux, ambassadeur, ça résonne. Ouais. Tu représentes un pays. Représente ses valeurs, tu peux porter la voix à l'extérieur. Là, on se dit, c'est
mais peut-être ça, quelque chose de. Ça dépend du rôle, chose, ça quoi. Dépend. Ça dépend de ce qui va lui être confié. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte, mais il peut.
Défendre de la dépénalisation universelle de l'homosexualité.
Oui,
et de
bien,
la
il peut. Moi, je répète encore une fois, ce qui ira dans le cadre de la dépénalisation dans tous les pays du monde, ce sera le fait que la population elle-même obligera le gouvernement à craquer. Ce sera pas sur une décision venue du ciel.
On obligera les pays
à craquer.
Parce que les pays où l'opinion publique peut avoir un effet d'infusion et de remontée verticale, ce sont en général des démocraties. J'ai hâte que dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient, la démocratie arrive, tout comme toi. Mais je pense que ça va être difficile de faire monter la démocratie en Iran et au Qatar.
Regarde, Barbara. Moi, je me souviens de la génération de mes parents, de mes grands-parents, quand le mur de Berlin est tombé et que l'URSS s'est effondré. Si tu veux, pour eux, c'était inconcevable.
Oui.
Tu vois que
la veille, on disait tout le monde va mourir,
que le pouvoir et l'Union soviétique un jour puissent tomber.
Et la veille, Carrière d'Encausse disait, il va y avoir un bain de sang terrible la veille.
Donc je pense, si tu veux,
qu'il n'y a pas eu un mort.
C'est théocratie. Forcément,
mais bien sûr,
aujourd'hui,
c'est le peuple qui fait tomber.
Les canaux qui sont multiples,
mais bien
les canaux
sûr, Internet,
les
bien
nouvelles
sûr.
Technologies, ils vont être obligés de bouger.
Regarde ce qu'a fait la Chine là. Regarde ce qui s'est passé en Chine. Barbara, regarde ce qui s'est passé en Chine. La Chine, c'était incroyablement libéralisé. D'un seul coup, ils ont eu peur. La Chine, c'était devenu l'Europe, les États-Unis. Ils ont eu peur. Ils ont resserré les boulons. Mais tu vois que les gens, c'est pas comme il y a 40 ans. Ça gueule grave en Chine. Ils vont être obligés de craquer. Ils vont tout lâcher parce que.
C'est bien pour ça qu'un ambassadeur n'y changera rien.
Peut-être.
Eder n'en est pas convaincu. Qu'en dit Romain? Romain, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes plutôt favorable à cette nomination, Romain?
Je suis plutôt favorable à cette nomination. Déjà, je suis directement concerné parce que je suis un homme gay de 37 ans. Je voudrais aussi réagir sur quelque chose qui a été dit par Barbara au sujet de Drag Race. Si les LGBT aiment ça, vous avez dit. Il n'y a pas que les LGBT et ça n'est pas forcément une caricature. Il faut savoir que les drag queens, ce sont des hommes qui se transforme en femme, c'est un art, c'est du transformisme. Vous avez des drag queens qui sont hétérosexuels. Il n'y a pas que les LGBT concernés par des drag queens. Alors je vous vois là cligner des yeux.
Mais
c'est pas les drag race, Barbara, c'est l'art du transformisme. Vous en avez dans les cabarets. Les gens qui font du cabaret sont des hétérosexuels. Le public est hétérosexuel. Donc ça, c'était quelque chose sur lequel je voulais revenir. C'est pas forcément le cliché de la drag queen homosexuelle qui fait je suis un homosexuel, je ne porte pas de talons, je ne mets pas de faux ongles, je suis quelqu'un de lambda. Et il y a des hommes hétérosexuels qui aiment cet art du transformisme. Ça, c'était d'accord. une première. Concernant
l'ambassadeur.
L'ambassadeur. Moi, je suis assez d'accord avec Étienne. En fait, comment on peut être contre sans savoir ? Oui, je sais, sa mission va être de promouvoir les droits en France, mais aussi à l'international. Je suis quand même assez atterré qu'on soit contre, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont tués pour être homosexuels, tués pour aimer qui ils aiment. C'est même pas qui ils veulent, parce que rappelons que l'homosexualité n'est pas un choix. Ils sont tués.
Et il y a des tas de pays où on est obligé de se marier avec une femme ou avec un homme, quelle que soit son orientation sexuelle.
Romain, à un moment donné, vous m'avez entendu dire qu'il y avait nulle part dans le monde. Au contraire, j'ai bien dit qu'il y avait des pays, précisément à la différence des pays européens, il y avait des pays où précisément ils risquaient la peine de mort. Romain, donc c'est vers eux que devrait aller l'ambassadeur et il n'ira pas.
Pourquoi il n'ira pas, qu'en savez-vous ?
Parce qu'il y a des intérêts économiques. Ça vous dérange pas, par exemple, qu'on ait reçu MBS alors qu'il y a encore quelques années, il découpait les journalistes à la tronçonneuse ? Vous verrez.
Allez-y.
Moi, ça me dérange énormément. Mais pour l'instant, on ne le sait pas encore. Si on n'essaye pas, on ne le saura pas. Quand ce sera fait et que là, effectivement, on se rendra compte que peut-être, comme a dit le téléspectateur d'avant, c'est un poste fictif. Là, on pourra s'élever. Et même en France, depuis le mariage pour tous, croyez-moi, pour le vivre, moi, j'ai la chance de vivre avec des gens très tolérant dans mon entourage, avec ma famille, pour qui que je sois homosexuel ou hétérosexuel, ça ne change aucune chose, mais tout le monde n'a pas cette chance.
Mais justement, Romain, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un compagnon ?
Alors non, moi je suis célibataire.
Mais est-ce que vous verriez, franchement, aujourd'hui, tranquillement, n'importe où en France, vous prenez main dans la main avec votre compagnon et vous embrassez aussi publiquement ?
Mais absolument pas. Et il n'y a pas. Et encore, moi, je suis à Paris parce qu'on parle beaucoup des banlieues. Mais il n'y a pas que les banlieues. Regardez les chiffres des agressions homophobes depuis le mariage pour tous, qui ne cessent d'augmenter. Depuis le mariage pour tous, il n'y a pas que l'homophobie de toute façon. Le racisme, parce que moi, j'aime pas mettre l'homophobie. C'est le racisme. L'homophobie est du racisme. Le racisme, c'est dénigrer une minorité. Tout ça, pour moi, antisémitisme et tout, homophobie, tout ça, c'est.
Mais c'est du racisme. Tout le monde sait que c'est certainement pas facile de s'afficher homosexuel. En couple en banlieue, mais ce qui nous revient de la campagne, c'est que c'est pas facile non plus de s'afficher en province.
Regarde Didier Giraud en Saône-et-Loire.
Il vit des moments difficiles.
On plaisante.
j'ai eu un moment d'hésitation.
Romain, merci de ce témoignage en toute franchise.
Encore une fois, vous voyez, à chaque fois, on revient sur la question du militantisme en France, etc. C'est un ambassadeur. C'est aller représenter la France à l'étranger.
Il y a déjà une chose qui sera intéressante, c'est de voir qui est nommé.
Ça va être encore
Au casage d'un copain. Quelles seront ses prérogatives et est-ce qu'il sera embarqué dans les voyages officiels?
Non, mais Barbara, l'ambassadeur du pôle, c'est vrai que ça.
Pendant ce temps-là, on n'a toujours pas un défenseur de la cause animale.
S'il vous plaît, alors, est-ce que les résultats ont bougé? Un ambassadeur dédié aux droits LGBT vraiment utile? Oui ou non? Oh, ça n'a pas dû bouger. Ah, 89, on s'est perdu des points même, il me semble, parce que c'était à 87 juste avant, et là, ça termine à
89. Ça s'appelle un score à la soviétique.
Encore 10 minutes et c'était du 100%. Allez, dans un instant...
Je suis bon, plus je parle, plus je perds des points. Je fais pareil dans avec les instant, filles.
La
avec
campagne
les filles.
Est trop longue.
Quand je drague, plus je parle longtemps, moi j'ai de succès.
Guilhem Carayon avec nous, le président des Jeunes Républicains.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, avec aujourd'hui Étienne Lié, big éducateur, Johnny Blanc, chef d'entreprise dans les Deux-Sèvres, et Barbara Lefebvre, qui est enseignante. On va accueillir notre invité, le face aux GG, on va parler politique. Avec Guilhem Carayon, le président des Jeunes Républicains. Bonjour.
Bonjour.
Ça fait quoi d'être dans une famille de losers ?
Belle entrée en matière.
Oui, mais enfin, si on se fie quand même simplement aux derniers résultats politiques, c'est pas simple. Et vous avez raison. Sacrément perdu, quoi. Donc.
Non, mais vous avez raison. On a sacrément perdu. Et si on regarde pas les choses avec lucidité, on est des sacrés cons. Parce que honnêtement, la situation est catastrophique. Ça fait 3 présidentielles que la droite perd. Moi, je crois que les idées qu'on porte sont majoritaires dans le pays. On le voit dans à peu près toutes les enquêtes d'opinion sur les questions de sécurité, sur les questions d'économie, sur les questions d'identité. Nos idées sont majoritaires et pourtant on perd à chaque fois. Donc si on se remet pas en question, c'est qu'on a vraiment tout perdu.
Alors, et qu'on est... Comment vous l'expliquez justement ?
Virer les vieux ?
Moi, je crois que le premier problème de la droite aujourd'hui, c'est l'absence d'une ligne claire. Si vous demandez aux gens ce que représentent comme ligne politique les Républicains aujourd'hui, certains vous diront c'est des libéraux, d'autres vous diront c'est des souverainistes, certains vous diront c'est des conservateurs. On ne sait pas vraiment ce que la droite pense. Et on a eu une élection en décembre pour la présidence du mouvement, et moi je crois qu'elle doit servir à clarifier la ligne idéologique qu'on porte. Moi je crois que la principale erreur de LR, ça a été, en réalité c'était l'UMP qui avait mis ça en place il y a une vingtaine d'années, c'était de faire la fusion entre le RPR, la droite gaulliste, et l'UDF. L'UDF, c'était les sociodémocrates de centre-droit. Moi, je crois que quand on unit deux courants qui sont incompatibles, mais en fait, on peut pas créer de la clarté et les gens peuvent pas nous croire. Moi, je crois plutôt, si on revient à ces comparaisons RPR-UDF, à la ligne RPR, la droite canal historique, c'est-à-dire une droite populaire qui est ferme sur les questions régaliennes, qui croit à l'autorité de l'État et qui, en même temps, sur les questions économiques, croit en la liberté économique. On est un pays qui est devenu un enfer fiscal. Pardon, mais on est le premier pays en termes de prélèvements obligatoires en Europe. On est un pays qui est suradministré, qui est hyper bureaucratique. Et dans le même temps, on a un État qui n'est pas stratège, qui est incapable de mener la réindustrialisation du pays dont on a besoin. Moi, je crois en l'industrie. Je crois que c'est l'industrie qui peut nous permettre l'élévation sociale. L'industrie, c'est ce qui permet à un ouvrier qui commence sa carrière à 18 ans de devenir contremaître à 30 ans, qui permet au contremaître de devenir ingénieur à 40 ans. L'industrie, c'est ça.
Mais qui l'incarne aujourd'hui, cette ligne, alors?
Moi, je crois pas que ce soit...
Parce qu'on a a priori deux candidats qui vont briguer la présidence, si je me fie à ce qui est dit officiellement ou pas, c'est Éric Ciotti et Aurélien Pradier. Donc, pour vous, il y en a un des deux qui incarne cette ligne, Monsieur Ciotti, par exemple?
On verra. Moi, je crois que le candidat. Le prochain président des Républicains,
par exemple, Éric Ciotti, aujourd'hui, c'est celui qui peut le mieux incarner cette ligne que vous venez de définir. La ligne RPR qui a gagné l'historique.
Éric Ciotti, il a évidemment des qualités. C'est un élu expérimenté. Il n'y a pas de doute sur la ligne politique qu'il porte. Lui, il prône une ligne populaire. Une populaire donc droite, droite, canal historique.
Le tenant de cette ligne. Ouais.
Oui, mais moi, je crois que le rôle du prochain président des Républicains, c'est de mener la reconstruction idéologique, la bataille intellectuelle, mais c'est pas d'être le prochain candidat à l'élection présidentielle. Il y a 5 ans qui nous séparent de la prochaine élection présidentielle. Moi, je plaide pour que ce soit Laurent Wauquiez. Le prochain candidat des Républicains pour l'élection présidentielle, il a compris qu'aujourd'hui les partis, en l'état des choses, ne permettaient plus de mener le combat des idées. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes entraîné dans la polémique politicienne. Vous devez réagir à des polémiques tous les jours quand vous êtes président de parti, et vous pouvez pas prendre de la hauteur. Moi, je crois que le président de parti aujourd'hui ne peut pas être candidat à la prochaine présidentielle, et je plaiderai pour que ce soit Wauquiez, Laurent Wauquiez, le
président. Excuse-moi.
Vas-y, Étienne, 3 questions rapides.
Vous voyez, de ce que vous venez de dire tout à l'heure sur l'ouvrier, le contremaître, moi, j'ai l'impression que ça, c'est ce que j'entendais du Parti communiste quand j'avais 18 ans. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une vision totalement ringarde. De ce qu'est la France aujourd'hui, c'est-à-dire quand on vient nous parler de l'usine, de l'industrialisation avec l'ouvrier qui démarre petit et qui grimpe dans l'échelle, mais c'est des trucs qu'on entendait. J'ai l'impression que idéologiquement, c'est très sympa. Hein, j'ai l'impression même d'être en Chine. C'est un peu la pensée chinoise. Oui, c'est un peu la pensée chinoise. Mais j'ai l'impression qu'en France aujourd'hui, ça n'a pas de réelle résonance.
On peut comparer avec un autre pays européen, l'Allemagne. L'Allemagne, la part de l'industrie dans son PIB, c'est plus de 25%. Nous, en France, la part de l'industrie dans notre PIB, c'est 10%.
Oui, mais
on était au même niveau que l'Allemagne il y a 25 ans.
Mais non, mais vous savez pourquoi quand même? Parce qu'au premier choc pétrolier, le premier socialiste qu'on a eu en France, ça a quand même été notre cher président Giscard. Parce qu'au premier choc pétrolier, Giscard crée les acédiques. Quand l'Allemagne soutient l'industrie, on voit le résultat aujourd'hui. Ouais, donc à un moment, il faut aussi appeler un chat. Quoi.
Mais je suis d'accord avec vous, mais la désindustrialisation du pays, ça a provoqué, avec la mondialisation sauvage qu'on a accompagnée, ça a provoqué le déclassement des classes moyennes et des classes populaires. Et c'est ce qui fait que le pouvoir d'achat en France n'a pas augmenté assez vite par rapport à nos voisins allemands, par exemple.
Et déjà, M. Carayon, vous êtes jeune, donc vous n'avez peut-être pas encore cette perspective historique de ce qu'a été la droite française. Mais si on regarde Giscard, Chirac, Sarkozy, la droite française n'a cessé de trahir ses électeurs. Donc voilà pourquoi aujourd'hui vous payez les pots cassés comme le Parti Socialiste paye les pots cassés, parce que c'est la trahison des électeurs. Le dernier leader gaulliste à la droite, c'était Philippe Séguin. celui qui a véritablement posé. Oui, mais regardez,
mais pas, oui, mais
tous les autres, c'est des masticiens. Et même encore aujourd'hui.
Giscard, il était à la tête de l'État.
Oui, mais regardez,
j'étais même pas dans le ventre de ma mère, j'avais moins 20 ans. Enfin, je suis pas comptable.
C'est ce que
de
je
ça.
Vous dis, mais vous voyez, vous soutenez M. Ciotti ou M. Pradier, les deux sont masticiens. Les deux trouvent que l'Europe, c'est ce qui va sauver.
Moins Éric Ciotti.
Oui, moins Éric Ciotti, mais enfin,
non, mais
il est pour l'Europe.
Si vous
aussi.
Écoutez, si vous écoutez Éric Ciotti, il vous dira que lui, il défend une Europe des nations, une Europe séguiniste, et que l'Europe des nations aujourd'hui.
Mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'autre. Parce que ça fait des années que M. Ciotti.
Je vous ai parlé d'une droite RPR. La
mais
droite M. RPR,
Ciotti, il est dans les instances.
Mais Séguin.
D'accord. Mais M. Ciotti, vous voulez revenir à la droite séguiniste, qui en réalité est une droite qui, hélas, n'a jamais existé, puisque le RPR et ensuite l'UMP a tout fait pour pousser Philippe Séguin dans un corner et pour l'empêcher de prendre l'ampleur qu'il aurait dû prendre et qui aurait sans doute peut-être sauvé la droite et sauvé la vraie droite gaulliste, c'est-à-dire cette droite populaire pour l'ordre et qui aurait peut-être
aidé. Été élu quand même.
Mais justement, le problème, c'est que vous n'avez jamais fait l'inventaire du sarkozysme. Or, Chirac, on va oublier. Mais non, mais attendez, ça fait un sacré bout de temps. Et surtout, Sarkozy continue à vous mettre des pots de banane. Parce que Nicolas Sarkozy a continué à vous mettre des pots de banane pendant la campagne de Madame Pécresse. Et vas-y, que je te lève le tapis sous les pieds. Ensuite, il a essayé de négocier des choses encore pour la énième fois avec Monsieur Macron. Il se fait avoir à chaque fois, mais c'est pas grave, il continue. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir
la première pot de banane, la première pot de banane qu'il a mise aux Français, c'est en 2008 avec le traité de Lisbonne, qui est la décalque du traité constitutionnel européen
de
2005.
Si la jeunesse de LR, c'est vous et que c'est votre qui prend à LR, alors peut-être que la droite française va s'en sortir. Mais sinon, si vous continuez dans cette logique maastrichtienne, cette logique mondialiste, cette logique finalement macronienne, vous ne vous en sortirez pas et vous continuerez à trahir vos électeurs.
Moi, j'ai plus de points communs avec un Michel Onfray, un souverainiste comme Michel Onfray, qui défend la France, qui défend la souveraineté de la France et donc ses emplois et donc les classes populaires et les classes moyennes, plutôt qu'avec des ultralibéraux.
On est d'accord, puisque j'écris dans la revue Front Populaire, nous vous inviterons, et notamment nous vous inviterons au rendez-vous du ZES à la fin du mois de septembre, mois d'août, pour les journées de la revue Front Populaire.
Quand on parle d'ultralibéraux en France, ça me fait quand même gentiment sourire quand on parle de libéralisme en France. Moi, dans un pays où quand je fais 100 000 euros de marge, il me reste 35 000 euros, je vois pas où est la liberté, quoi. Donc, quelque part, les libéraux sont pas là. Hein. On est vraiment régis. Enfin, j'arrive même pas à comprendre comment aujourd'hui, quand on dit que la France, c'est le premier pays en termes d'investissement étranger. Je sais pas comment font les étrangers, hein, parce que moi, quelque part.
2500 entreprises étrangères, on a le record.
Mais comme je disais tout à l'heure, je vais dire un truc. Tu fais 100 000 euros, je veux dire, chez toi, il te reste 35 000. Tu passes outre-Rhin, il te reste 65 000.
Oui, mais c'est le seul pays au monde où l'aide aux entreprises, c'est 10% du budget national. Hein. C'est 10% du budget national, c'est inouï. C'est-à-dire l'aide aux entreprises directes et l'aide aux embauches, etc. C'est 10%, c'est-à-dire c'est vrai que c'est très prélevé, mais en même temps c'est très aidé. Alors peut-être qu'il faudra nettoyer.
C'est très mal aidé.
Voilà, c'est toutes jamais ciblé.
Toutes les aides entreprises, c'est quoi ? En France, on t'encourage à payer tes salariés à ras des pâquerettes, parce que tous les abattements de charges, c'est sur le SMIC. Voilà. Dès que t'augmentes, tu perds tout. Donc on t'encourage à payer les gens à 1000 balles par mois.
Mais je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai discuté
donc
avec.
Il faut être à fond sur cette ligne libérale, moins d'État, moins d'impôts. Quoi, en fait, c'est ça.
Non, mais pour moi, c'est à la fois prenez la liberté économique dans le sens où il faut baisser massivement la fiscalité, baisser les taxes. Mais ça, c'est évident, et je pense que vous le pensez aussi.
Oui, malgré
qu'on ait aussi en commun le fait d'être souverainiste. Ça n'enlève pas le fait que l'État doit aussi intervenir dans l'économie.
Oui.
Pardon, mais le rôle de l'État, c'est d'intervenir quand il y a un dysfonctionnement dans le marché.
Bien sûr.
C'est aussi des libéraux peuvent penser ça.
Un rôle de régulation, du marché pour le sortir de l'ultracapitalisme et de l'hyperproductivisme.
C'est un État stratège, on a besoin.
Prenons un des gros sujets là qui va arriver à la rentrée. Gérald Darmanin a annoncé un grand débat sur l'immigration. Et on va voir arriver le droit de vote des étrangers non européens, enfin qui ne font pas partie de la communauté européenne. Vous êtes pour ou vous êtes contre ?
Local.
Aux élections locales, oui.
Pour les élections municipales, moi je suis contre parce que c'est une tradition républicaine, c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le fait que le droit de vote est lié à la nationalité. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas séparer cet exercice-là, qui est un enjeu de souveraineté. On vote pour élire des représentants, notamment à l'Assemblée nationale, au Parlement, au Sénat, qui vont voter les lois du pays, qui vont s'appliquer sur nous. Donc on peut pas déléguer cette souveraineté à des étrangers. D'autant plus que, mettons-nous deux secondes dans l'hypothèse où on accorde le droit de vote aux étrangers.
Non, mais là ce serait juste
il y aurait les pressions municipales.
Pour les municipales, hein, pas oui, pour les députés, pas pour ceux qui votent les lois.
Mais oui, mais attendez, s'il y a des conseillers municipaux et des maires qui sont étrangers, parce que il y aura forcément un vote communautaire, c'est eux, ils sont des grands électeurs et donc ils voteront pour les sénateurs. Donc ils participeront, même si c'est indirect, c'est vrai.
Pourquoi ce serait différent?
Ils participeront à la vie législative du pays. Moi, je crois que le premier danger, si on accorde le droit de vote aux étrangers, c'est le fait qu'il y aura forcément des pressions, des menaces étrangères. Ça, c'est évident. Les puissances étrangères vont faire pression sur leurs ressortissants qui sont en France, qui ont le droit de vote, pour voter pour certains candidats. Donc il y a évidemment le danger d'un vote communautaire. Oui, ça se fait déjà. Il y a déjà des élections municipales, des élections locales, des candidats qui sont communautaristes. Et si les étrangers ont le droit de vote, ils vont l'aider. Bah, ça se fait. Bah.
Combien ont été élus, dites-moi. Donc, en France
pour l'instant non, mais si on accorde le droit de vote aux étrangers, ils vont être élus.
On entend ça sans arrêt. Mais en fait, personne n'a jamais été élu. Et même dans les endroits où on nous dit c'est très communautaire, quand ils font 1,5%, c'est un truc inimaginable. Donc pour l'instant, le danger.
T'inquiète pas, ils font de l'emprisme dans d'autres parties.
Non, mais voyez, d'imaginer même.
On est bien d'accord. Quand je vois 70% du vote musulman qui va à Jean-Luc Mélenchon, je m'inquiète quand même.
C'est intéressant de voir, d'imaginer même que. Parce que on est étranger, on va voter pour un candidat étranger. C'est un truc complètement dingue.
Moi, c'est-à-dire, ça me paraît complètement logique.
Je vous dis que ça ne se passera pas comme ça. De certains étrangers en France, tous leurs actes sont des actes politiques, que ce soit leur tenue vestimentaire, leur façon d'agir, c'est politique.
Ça représente 0,03%. Il va y avoir un vote.
Je m'en fous de ce que ça représente. On a le droit de s'inquiéter, de se poser des questions.
Tu payes tes impôts dans une ville, tu votes dans ta ville.
Mais ce qui est intéressant, c'est le symbole. Qui a proposé cette loi, c'est le président de la commission des lois qui s'appelle Sacha Houlier.
À titre personnel d'ailleurs, c'est assez curieux.
À titre personnel, déjà parce qu'il sait que ça marchera jamais, ça fonctionnera jamais. Tout simplement, il fait un effet de buzz, il fait un effet de com. Il sait très bien que pour faire passer une proposition de loi constitutionnelle, parce qu'il faut modifier la constitution pour accorder le droit de vote aux étrangers, il faut qu'il y ait à la fois les 3/5 de l'Assemblée qui le votent. Ça pourrait se faire s'il y a un consensus entre la NUPES et les députés marcheurs, quoique tous les députés marcheurs ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais il faudrait également que le Sénat, aux 3/5, vote le droit de vote aux étrangers. Impossible. Ça, c'est impossible. Le Sénat est à droite, c'est Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, il ne le votera jamais. Donc, c'est intenable, ça peut pas se faire.
Pourquoi vous avez si peur?
Moi, j'en ai pas peur. Je crois que ça se fera pas.
On en débat
aujourd'hui parce que un député macroniste, qui est important quand même dans la galaxie macronienne, c'est président de la commission des lois, c'est l'avenir de la Macronie. Moi, j'en veux pas. J'en veux pas pour mon pays. Je crois que la majorité des Français en veut pas non plus.
Est-ce que dans votre ligne directrice à droite, vous allez réfléchir à ce qu'était à l'époque qu'on appelait la TVA sociale, à savoir qu'aujourd'hui, je veux dire, tout le social pèse sur le travail. On voit bien que c'est juste plus possible. Faut que ça s'arrête. Est-ce que demain, il est possible de virer des charges et remettre ça sur de la TVA? Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, là encore, je vais me faire pas plein d'amis, mais même celui qui n'a pas d'argent, qui va acheter un paquet de nouilles à 60 centimes, il cotise. Parce qu'aujourd'hui, les 5 points qui cotisent, c'est que dalle. Et que l'étranger qui vient en France, il cotise. Voilà. Est-ce que c'est pas une idée à réfléchir, ça?
Moi, je crois que le vrai sujet, c'est l'utilisation de l'argent public. Si vous regardez sur 1000 euros de dépenses publiques, il y a, je crois, presque 600 euros, 565 euros qui va aux dépenses sociales.
Attendez, je vous arrête tout de suite.
Vous avez uniquement 3 euros sur 1000 euros qui vont au budget de la justice.
Excusez-moi.
On s'étonne aujourd'hui du fait que la justice ne fonctionne pas. On s'étonne du fait qu'il n'y a pas assez de magistrats, qu'il n'y a pas assez de greffiers, que les tribunaux sont complètement engorgés. On s'étonne du fait que les peines ne sont pas exécutées, qu'il n'y a pas assez de places de prison. Mais c'est aussi parce qu'on n'y met pas le pognon. On met pas le pognon et on met tout le pognon dans une distribution qui est mal calibrée.
Excusez-moi, juste parce que quand on dit ça, alors c'est presque 50%, dont 60% sur ces 100% vont à la vieillesse. D'abord c'est principalement la vieillesse.
Mais c'est pas pour autant que c'est bien utilisé.
L'aide sociale,
il faut faire une réforme des retraites.
L'aide sociale propre et les retraites. La vieillesse et les retraites. Ouais. L'aide sociale proprement dite, c'est-à-dire aux personnes qui ont le moins d'argent, c'est 2,3%. Donc c'est pas 60%. Non, mais là, c'est 2,3%. Si tu veux, cette façon qu'a la droite de systématiquement nous dire 60%, c'est pour les vieux. C'est pour les vieux cet argent.
C'était pas ça ma question. Ma question était est-ce qu'on peut faire peser le social sur autre chose que le travail? C'est plus possible que ce soit uniquement ceux qui bossent qui fassent vivre tout le système.
Évidemment qu'il faut baisser le coût du travail. C'est insupportable que le travail paye à peine plus que l'assistance. Aujourd'hui, quand vous restez chez vous, moi je le sais, je suis jeune et je connais plein de jeunes qui n'ont pas envie d'aller bosser parce qu'ils se disent si je reste à la maison, je vais toucher 1000 ou 1100 euros par mois. Si je vais bosser, je toucherai à peine 1300 euros. Mais ça sert à quoi de bosser pour gagner 200 euros de plus que si vous restez chez vous? Ça sert à rien.
Un dernier mot sur. Vous faites quoi? Dernière question d'actualité. Vous faites confiance à Gérald Darmanin dans son volontarisme là contre les rodéos urbains?
Il fait de la com. Il a annoncé au début de l'été qu'il allait faire 10 000 contrôles de rodéo urbain. Déjà, faut pas qu'on oublie quand même qu'il y a d'autres problèmes de délinquance et de criminalité dans le pays. C'est un fléau, évidemment, les rodéos urbains, mais les autres types de délinquance n'ont pas du tout arrêté pendant l'été, sont pas stoppés. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Et moi, je crois qu'on manque de volonté politique. Et je fais pas confiance à Gérald Darmanin parce que je crois qu'il n'est pas prêt à changer la trajectoire aujourd'hui des forces de l'ordre qui sont dans une doctrine d'évitement. On attend en fait qu'il y ait des morts ou des blessés pour intervenir, alors qu'il faudrait être dans une doctrine, pour moi, d'intervention, où on n'a pas peur d'aller prendre en chasse les auteurs de rodéo et d'aller les arrêter. C'est une doctrine complètement différente, simplement pour ça,
surtout,
hein. il faut une volonté politique. Et moi, je crois qu'elle n'y est pas aujourd'hui, parce qu'il y a un risque, et parce qu'on obéit encore à un principe de précaution qui dirige tout depuis une vingtaine d'années.
Merci Guillaume Carayon, le président des Jeunes Républicains, d'être passé par les GG. Le débat va continuer sur RMC Story, avec Rémi Barré,